Bonjour à tous. Oui, le thème que je vais aborder, c'est un thème historique. Je suis, en tout cas j'essaie, de faire un travail d'historien. Donc je ne suis pas dans l'action militante au quotidien. C'est-à-dire que par rapport à l'urgence qui est sans doute ressentie par tous ceux qui sont engagés dans des associations diverses, j'ai un regard un petit peu différent, parce que c'est un regard sur le temps long, sur ce que les historiens appellent aussi la longue durée. Mais vous allez vous rendre compte que finalement le passé est toujours dans le présent. Et que peut-être ce que je vais proposer, c'est de remonter aux origines de tous les enjeux que nous trouvons aujourd'hui dans la société, et en particulier dans notre société. Alors je vais parler essentiellement à partir de ce que j'ai déjà travaillé, et je vais utiliser plus précisément, si vous voulez, trois thèmes de recherche qui ont été ceux que j'ai choisis il y a parfois un certain nombre d'années. Par exemple, à la fin du 19e siècle, vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'on en a à faire de la fin du 19e siècle? Non, franchement. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'à la fin du 19e siècle, je me suis intéressé à l'immigration qui concernait essentiellement des Italiens à l'époque, dans un contexte d'italophobie étonnant, si on oublie. Et nous allons voir que certains modèles de l'époque sont toujours présents aujourd'hui. Et cette italophobie était tellement importante qu'en 1893, il y a eu un massacre italien dans les Salins des Gomorres. Et j'ai fait un travail là-dessus, il y a un certain temps. Je me suis également intéressé, ça peut-être certains d'entre vous le savent davantage, à l'exil républicain espagnol. Non, parce que j'étais directement concerné à travers ma famille, n'imaginez pas ça. Enfin, imaginez aussi si vous voulez. Mais parce que, effectivement, c'est un sujet d'étude comme l'autre. Et lorsqu'on fait un travail d'histoire, on ne peut pas être à la fois dans le travail que l'on fait et être celui qui a un regard extérieur sur ce travail-là. Donc j'ai essayé quand même de faire un travail d'historien sur l'exil républicain espagnol, qui est une période postérieure, bien entendu. Ensuite, je me suis intéressé également aux banlieues. Les banlieues, que l'on s'acharne parfois à désigner sous d'autres noms, comme si en changeant le terme, on changeait le problème. Je veux dire par là que les banlieues, on peut s'interroger, est-ce que c'est un, entre guillemets, problème de l'immigration, ou est-ce que c'est une question sociale? Parce qu'on peut très bien l'aborder sous l'angle de la question sociale. Et avec toutes les images que l'on a projetées sur les banlieues. Et puis aujourd'hui, ben vous le savez, nous sommes en plein dans un monde complexe sur ce que l'on appelle parfois, de façon simple, la crise des migrants. Et dans quelle mesure sommes-nous concernés par cette crise des migrants? Donc je vais essayer de retracer tout cela, et en particulier d'abord je vais partir de la France, qui est devenue sans le savoir un pays d'immigration. Je dis bien sans le savoir, parce qu'il y a eu deux facteurs qui ont été très importants, c'est d'abord l'ignorance, et deuxièmement la nécessité. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la France s'est conçue comme un vieux pays gaulois. Et je vois que parmi vous, j'en fais partie. Hein. Vous avez parmi vous, il y en a qui ont étudié, lorsqu'ils étaient à l'école primaire, nos ancêtres les Gaulois. Et donc, voilà, moi j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Moi ça m'amusait un petit peu parce que je savais que mes ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Mais enfin, je ne voulais pas faire déplaire mon instituteur quand même. Donc, nos ancêtres les Gaulois, et c'était, voilà, c'était quelque chose dont on était persuadé. En tout cas, c'est quelque chose que l'école était chargée de transmettre. Or, il se trouve que dans les faits, au même moment, lorsqu'on apprenait nos ancêtres les Gaulois, la France devenait un pays d'immigration. Pourquoi ? Alors, excusez-moi, on va faire un tout petit peu de démographie, mais je crois que c'est indispensable. La France est sans doute le premier pays à avoir achevé, ou avoir amorcé, plus tard, sa transition démographique. Qu'est-ce que c'est la transition démographique? Ça commence au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la natalité commence à baisser. Et en même temps, la mortalité baisse aussi. Mais il y a toujours un décalage entre la natalité et la mortalité. La natalité étant plus faible, la mortalité étant plus faible que la natalité. Mais en même temps, il y a une décroissance des courbes. Jusqu'au moment où on arrive, dans la seconde moitié du XIXe siècle, où, certaines années, la mortalité est supérieure à la natalité. Donc la France est un pays qui, dès le XIXe siècle, connaît ce que l'on appelle la dépopulation. Et je peux même vous donner des années précises qui ont été repérées. 1890-1892, année de dépopulation. Il y a plus de décès que de naissances. 1895, 1900, 1911. Et la population française qui avait augmenté en 1789, 28 millions d'habitants, en 1872, 36 millions, en 1906, excusez-moi, je vous donne le chiffre quand même, hein, on ne dit pas trop de chiffres, pas trop de statistiques, si, il en faut un peu. Donc, en 1806, 41 millions, et en 1906, 41 millions, et en 1946, 40 millions et demi. Autrement dit, la France a connu la transition démographique et sa population a augmenté moins vite que le reste de l'Europe, mais surtout, en même temps, s'est produit un autre phénomène. La France est restée un pays de paysans. Par exemple, entre 1872 et 1906, la fin du XIXe siècle, le nombre de paysans en France n'a presque pas baissé. Le nombre d'exploitations agricoles n'a presque pas baissé. Pourquoi? Alors vous dites, bon, mais c'est... Et alors que le nombre de paysans ne baisse pas, est-ce que ça pose un problème? Et vous allez voir le type de problème que ça peut poser. Mais pourquoi le nombre de paysans n'a pas baissé? Pour une raison très simple. C'est que la France pratique une politique dite protectionniste. C'est-à-dire qu'on met des tarifs douaniers élevés pour protéger les produits français et les produits agricoles. Ce qui veut dire que les blés venant du Canada ou les blés venant des États-Unis d'Amérique du Nord sont, en arrivant en France, moins chers que les blés français, mais avec des droits de douane, sont plus chers. Ça veut dire que la paysannerie est protégée, que ces produits sont protégés. Vous savez qu'on invente le frigorifique. Ça doit être en 1870 à peu près qu'on invente le frigorifique. Et donc la viande qui vient d'Argentine, elle arrive congelée. Et elle arrive à très bon marché. Seulement, tarif douanier, et elle devient plus chère que la viande française. Donc les paysans français sont protégés par les tarifs douaniers. Et donc, la paysannerie qui peut vivre en vendant ses produits reste à la terre. Le travail d'usine, ça ne l'intéresse pas tellement. Elle préfère des travaux variés à la campagne plutôt que l'enfermement dans les usines qu'au XIXe siècle, vous savez comment on les appelait souvent, les usines, c'était le bagne. Donc la paysannerie française est réticente à ce travail en usine et en plus, elle peut ne pas aller travailler en usine. Donc, l'exode rural est faible. Il y a peu de paysans déracinés qui quittent la terre pour aller dans les villes pour devenir ouvriers. Or, en même temps, la France s'industrialise. Elle s'industrialise, disent les historiens, par diffusion lente. C'est-à-dire que peu à peu, en France, au cours du XIXe siècle, il y a des usines qui apparaissent, il y a des chantiers qui apparaissent, on construit des ponts ferrés, on construit des gares, on construit des viaducs, on construit des ponts, on construit des usines apparaissent. Où va-t-on trouver cette main-d'œuvre? Eh bien, il se trouve que les paysans déracinés qui quittent la terre pour devenir ouvriers ne sont pas suffisamment nombreux. Donc, c'est une main-d'œuvre étrangère qui arrive en France. Et la France, ainsi, peu à peu, sans s'en rendre compte, sans en avoir véritablement conscience, ce vieux pays gaulois devient un pays d'immigration. Alors, c'est quand est-ce que cela commence? Eh bien, cela commence, on le sait très bien, sous le Second Empire. Le Second Empire, à partir du tournant des années 1860, adopte le libre-échange. C'est un traité de commerce qui est fameux avec l'Angleterre. Et peu à peu, le libre-échange s'installe en France. Napoléon III est entouré par un groupe d'ingénieurs qu'on appelle Saint-Simoniens, qui sont pour le libre-échange. Et donc on échange les capitaux, on échange les marchandises. Et pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas circuler comme circulent les capitaux et les marchandises? Et les hommes des pays voisins, ils circulent et ils viennent travailler en France. En 1851, en France, nous sommes tout à fait au début du Second Empire, il y a 380 000 étrangers. Donc c'est un chiffre faible. En 1893, ils sont, 40 ans plus tard, ils sont 1 100 000. Et il faut ajouter que parmi ce 1 100 000 étrangers, il y a 420 000 étrangers nés en France. Donc presque la moitié d'entre eux, un peu moins, sont nés en France. Donc ça veut dire que ce sont des enfants d'étrangers, des jeunes installés en France. En 1931, la France est devenue au monde, le premier pays d'immigration. Ce qu'on ne sait pas. On pense toujours que le premier pays d'immigration, ce sont les États-Unis d'Amérique du Nord. Excusez-moi, je dis pays États-Unis d'Amérique du Nord parce qu'il y a des États-Unis aussi en Amérique ailleurs. Et que si on dit États-Unis, on ne sait pas de quel pays on parle. Dans les États-Unis d'Amérique du Nord, peut-être ça permet de préciser un peu. Donc, j'étais en train de dire que la France est le premier pays d'immigration au monde en 1931. Un chiffre, sur 100 000 habitants, il y a 550 étrangers. Les États-Unis d'Amérique du Nord, au même moment, sur 100 000 habitants, il y a 492 étrangers. Alors que l'on a fait des États-Unis d'Amérique du Nord le prototype du pays où la population s'est constituée par l'immigration. Donc la France, à ce moment-là, est au premier rang. Et cette immigration est également accompagnée d'une intégration de fait, c'est-à-dire la France se conçoit comme un pays d'émigration. Elle pense qu'elle est un pays d'émigration. Elle ne se pense pas comme un pays d'immigration. Elle se pense comme un pays d'émigration, et on citait avant toujours le même exemple, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, c'était dans leur manuel de géographie, lorsqu'ils étaient au lycée, on disait, oui, il y en a qui partent, et on citait le cas des Barcelonnettes. Hein? Dans cette vallée des Alpes, voilà, ils partent. Donc les Français partent. On oubliait de citer d'autres exemples, je vous signale quand même au passage, que les Basques, les Béarnais, les Bigourdans, les Comminjois, les Ariégeois, etc., ils sont partis aussi. Hein. Et vous savez que beaucoup d'entre eux sont partis dans les pays de la Plata en particulier. Bon, donc la France se conçoit comme un pays d'immigration. Il y a une immigration, mais il y a surtout une immigration. Et cette immigration a une particularité. C'est que le taux de masculinisation diminue. Je veux dire par là que en 1861, c'est-à-dire lorsqu'il y avait encore peu d'immigrés en France, il y avait 100 femmes pour 136 hommes. Ce qui veut dire que les hommes venaient travailler provisoirement, que c'était des travailleurs temporaires, travailleurs saisonniers, travailleurs provisoires, et que de leur famille, puisqu'il n'y avait pas autant d'hommes que de femmes, même si ça commençait à être vrai quand même. Hein. Et peu à peu, cette tendance s'est renforcée, et peu à peu, le taux de masculinisation, eh bien, a évolué, et 30 ans plus tard, il y avait 100 femmes pour 113 hommes, au lieu de 136 auparavant. Donc ça veut dire que de plus en plus souvent, ces travailleurs étrangers qui viennent en France se fixent en France. Ils ne viennent pas simplement pour un temps, en envoyant le maximum d'argent dans leur famille, processus classique, mais ils se fixent en France. Et c'est à ce moment-là que apparaît ou qu'est confirmé ce que l'on appelle le droit du sol. Le droit du sol avec, je donnerai deux grandes étapes. La première, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. L'article 4 de cette déclaration dit que tout Français ou toute personne née en France et résidant depuis un an et y travaillant a les droits des citoyens. Donc il suffit de vivre en France et même si on n'est pas de nationalité française pour avoir les droits du citoyen. Ça, c'est une des premières étapes. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'était peut-être la tradition de l'Ancien Régime qui est reprise, etc. Bon, d'accord, on va pas... On pourrait discuter. Mais, ce qui est beaucoup plus, si vous voulez, encore plus net, c'est qu'il y a deux lois qui sont votées sur la Troisième République, en 1889 et 1891, qui établissent tout à fait officiellement et en tant que tel le droit du sol. Que disent ces lois? Elles disent que des enfants étrangers, nés étrangers, nés en France étrangers, de parents étrangers nés en France, sont automatiquement français. Ils ne peuvent pas décliner. Ils sont français. Ils sont nés en France. Ils sont nés étrangers. Ils sont de parents étrangers nés en France. Ils sont français. Ils ne peuvent décliner que lorsqu'ils ont un des deux parents étrangers. À ce moment-là, ils peuvent décliner. Mais à partir du moment... Bon, il faut savoir quel est le contexte. Le contexte, c'est la rivalité franco-allemande. Et donc, devenant français, automatiquement, le service militaire devient universel à ce moment-là, sans aucune exception, et tout le monde fait son service militaire. Pendant un certain temps, le service militaire, il y avait un tirage au sort, etc., il y avait des remplaçants, c'était très très compliqué. Là, tout le monde fait son service militaire. Et donc, ça veut dire qu'en même temps, on fait des soldats. Comme la démographie est un petit peu hésitante, il y a aussi ce moyen pour faire des soldats. Mais, c'est le droit du sol. Et ça devient une tradition française qui existait déjà auparavant, mais qui est confirmée à ce moment-là. Et une organisation d'extrême droite comme l'Action française, dont je reparlerai, qui est dirigée par Charles Maurras, dit « Ce sont des Français de papier ». Donc, suspicion, est-ce qu'ils sont vraiment français? Mais le débat ne s'arrête pas là. Parce que en 1882, Ernest Renan fait à la Sorbonne une conférence. Dans cette conférence, il pose la question « Qu'est-ce qu'une nation ?» Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours l'acheter. C'est un petit livre et il fait quand même une centaine de pages, hein, pour la un peu moins peut-être. Donc, la conférence de Renan, et il essaie de répondre, qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que le sentiment d'appartenance? Eh bien, il répond très simplement, il dit, ce n'est... Voilà, c'est un mot, j'ai vu qu'il était là. Tout à l'heure, il a été projeté. À mon avis, c'est un mot exclure, qui n'a pas de raison d'être. C'est le mot race. Il n'y a pas de race. Depuis la philosophie des Lumières, depuis le 19e siècle, on sait très bien que l'homme est homme partout sur Terre. Il n'y a pas de race. On peut parler d'origine éventuellement, mais pas de race. Mais Renan, il était de son temps. Et Renan disait, ce n'est ni la race, ni la langue qui définit la nation. Il ajoutait la langue, pourquoi? Parce qu'on était en pleine rivalité franco-allemande et qu'il y avait le problème de l'Alsace et de la Lorraine. Et que les Allemands disaient, ben, les Alsaciens-Lorrains sont allemands parce qu'ils parlent allemand. Et il y a tout un débat à cette époque-là qui permet de dire que ce n'est pas la langue qui définit la nation, parce qu'à ce moment-là, ben, où sont les Basques français, où sont les Catalans, où sont les Corses, etc., etc. Enfin, je ne veux pas vous... lancer beaucoup de problèmes là-dessus, mais vous voyez tout ce que ça suppose. Donc, Renan dit, ce n'est ni l'origine, ni la langue qui définit la nation, il ajoute, c'est un vouloir vivre ensemble. L'expression qui est tellement connue vient de la conférence de Renan de 1882. Et Renan ajoute, c'est un plébiscite de tous les jours, dont le sentiment d'appartenance découle du vouloir vivre ensemble, du fait de vivre ensemble. On a le sentiment d'appartenir à quelque chose de commun, à une communauté qu'on peut appeler nationale, en tout cas à un groupe humain collectif. Et bien entendu, cela, c'est l'inverse du communautarisme. Puisque le communautarisme, c'est l'assignation qui vous est faite de rester dans un groupe qui est donné en fonction de votre origine. C'est tout à fait le contraire. La nation n'est pas quelque chose de figé, d'immobile, c'est quelque chose de mouvant, qui est d'un moment. Donc, un vouloir vivre ensemble et un plébiscite tous les jours. Alors maintenant, se pose une autre question. Mais ces immigrés dont j'ai parlé, j'ai pas dit qui étaient ces immigrés. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Eh bien, ces immigrés sont des immigrés économiques. C'est-à-dire que leur motivation est à ce moment-là strictement économique. Ils viennent d'où? Mais ils viennent de tous les pays frontaliers. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, tous les immigrés viennent des pays frontaliers. Ce sont des Allemands, ce sont des Belges, ce sont des Suisses. Je vous rappelle que, à Garaison, pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, il y a eu un camp d'internés. Tous ceux qui n'étaient pas, ou plutôt tous ceux qui étaient d'une nationalité appartenant à un pays en état de belligérance avec la France, je vais parler par là des Allemands, je vais parler par là des Austro-Hongrois, par exemple, étaient internés par décision administrative dans des camps que l'autorité française a appelé camps de concentration, mais qui n'étaient pas des camps de concentration tels que c'est resté dans notre mémoire, ce sont les camps de concentration nazis, parce qu'on emploie ce terme, mais c'était des endroits où on concentrait des gens de façon autorité administrative parce qu'ils étaient d'une autre nationalité. Donc il y avait en France des Allemands, il y avait des Austro-Hongrois, et on en a retrouvé, je vous signale quand même, pendant la durée de la Grande Guerre, il y en a 5000 qui ont transité par le camp de Garaison. Donc, des Belges, des Allemands, des Suisses, des Italiens, surtout des Italiens, et à partir des années 1880, sont arrivés des Espagnols. Auparavant, les Pyrénéens allaient travailler en Espagne, qui manquait de bras, et à partir de 1880, il y a un renversement de tendance. Et ce sont les Espagnols qui, pour des raisons économiques, viennent travailler en France. Mais ce sont les Italiens les plus nombreux, je vous le disais. Et dans l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, la France a eu 1 300 000 morts, 1 100 000 invalides, blessés, handicapés, malades. Donc on refait appel à la population immigrée venant des pays autour de la France. Et la France connaît dans l'entre-deux-guerres à nouveau la dépopulation. 1929, il y a plus de décès que de naissances. Les Français pratiquent volontiers à ce moment-là la politique de l'enfant unique. Entre 1935 et 1939, c'est une série d'années où il y a la dépopulation. Et en même temps, il faut reconstruire un certain nombre de régions. Donc il arrive à nouveau des Italiens et des Espagnols et des Polonais. Nombreux. Pourquoi? Parce que la Pologne, au cours de son histoire, a été divisée, partagée trois fois entre ses voisins. La Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. Et la Pologne a été reconstituée après la Première Guerre mondiale, avec en particulier l'appui de la France. Et donc les Polonais étaient très reconnaissants vis-à-vis du gouvernement français. Et lorsque le gouvernement français a cherché de la main-d'œuvre en dehors de France pour reconstruire certaines régions, eh bien, le gouvernement français s'est adressé à la Pologne et les Polonais ont répondu avec des contrats de travail de 3 ans, des contrats de travail renouvelables, mais ils venaient provisoirement, contrats de travail renouvelables, 3 ans renouvelables. Ils venaient avec un groupe. Ils venaient avec leur instituteur, ils venaient avec leur curé. ils suivaient la messe en polonais, et dans leur école, qu'est-ce qu'on apprenait ? Le polonais. Et ils étaient là, provisoirement. Mais la seconde génération, ben, ma foi, elle reste. Et la troisième génération, ben, elle reste aussi. Et elle est française. Donc, les Polonais font partie de ces immigrés qui sont venus pour des raisons économiques. Et la France, à cette époque-là, est un pays colonial. Elle est colonie. Donc, on va utiliser également cette main-d'œuvre coloniale, que l'on contrôle, bien entendu, puisqu'on va chercher de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre qui est insuffisante en France. Alors, c'est aussi bien l'Afrique du Nord que le Sénégal, l'Indochine, ce sont les colonies françaises qui envoient le plus de travailleurs immigrés. En précisant cependant que l'Algérie, depuis 1848, c'était la France. Hein, on me le souffle, c'était la France. Parce que l'Algérie était divisée depuis 1848 en départements français. Et que tous les Algériens étaient censés être français, mais, oui, je dis censés parce qu'ils n'avaient pas les droits de citoyens. Hein? Donc, il y avait deux catégories de Français. Il y avait les Français français et il y avait les Français point d'interrogation. Mais ils avaient la liberté de circulation. Donc là, c'était un cas un petit peu particulier. Alors que vous savez que le Maroc et la Tunisie avaient des statuts différents, puisque c'était protectorat. Et arrivent les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est après la Seconde Guerre mondiale, et là aussi, il faut reconstruire. Et pour les besoins de la reconstruction, malgré le baby boom, puisque vous savez que là, démographiquement, tout change. Et que la France va devenir, et durablement, un des champions en Europe pour le taux de natalité. Baby boom, d'ailleurs, qui ne commence pas en 44 ou 45, mais qui commence en 43, mais en fait, ça, c'est pas le sujet. Donc, 30 Glorieuses, avec le baby boom qui commence à ce moment-là, et la reconstruction, et donc, on va faire appel à nouveau avec la main-d'œuvre. Mais entre-temps, dans l'entre-deux-guerres, il est aussi arrivé d'autres types de migrants. Ce sont des réfugiés. Et ces réfugiés sont extrêmement nombreux à être venus dans l'entre-deux-guerres. Qui sont-ils ? Mais il y a des Arméniens. Des Arméniens qui ont été massacrés. Vous savez qu'on parle de génocide des Arméniens par la Turquie. Et donc, les Arméniens qui ont réussi à quitter donc, la Turquie et se réfugier en Europe, certains aux États-Unis d'Amérique du Nord, bien entendu. Vous avez également les Juifs d'Europe centrale qui arrivent, nombreux, pour une raison très simple, parce qu'ils sont victimes de l'antisémitisme. Et il y a des pays qui ont un antisémitisme forcené, pratiquement. Hein. Je ne parle pas encore de l'Allemagne nazie, je vais y venir. Mais par exemple, en Pologne, bon, c'est quand même très connu qu'il y a eu l'antisémitisme a été très fort. J'emploie le passé, bon. Oui, on peut appeler le présent aussi. Il y a également des Allemands, des Juifs anti-nazis ou des Allemands tout simplement anti-nazis qui trouvent refuge en France. Vous avez aussi des Italiens qui fuient le fascisme, dont des réfugiés politiques. Et vous avez bien sûr cette grande vague, cette énorme vague qui arrive soudainement, ce qu'on appelle la retirada, c'est-à-dire les républicains espagnols. Alors la retirada, au sens propre du mot, je sais qu'on utilise très largement ce mot aujourd'hui, mais au sens propre du mot, c'est cette vague qui représente 500 000 personnes et qui traverse la frontière essentiellement par le département des Pyrénées-Orientales entre le 27 janvier et le 12 février 1939. En 15 jours, c'est difficile à imaginer. En 15 jours, vous avez 500 000 personnes qui traversent la frontière pratiquement à un point précis. Alors, il faut savoir qu'il y a eu aussi des vagues précédentes, en 36, du Pays Basque. En 37, assez peu, parce que c'était une vague qui est partie des Asturies et de ce qui restait du Pays Basque espagnol, autour de Bilbao, et qui est arrivée dans les ports. Port français, port belge, port néerlandais, port danois et port d'Angleterre. Donc elle a été répartie un petit peu en Europe. Mais vous avez la vague de 38 qui arrive dans les Hautes-Pyrénées et dans l'Haute-Garonne. et vous avez la vague de 39. Alors là, ce sont des réfugiés politiques. Réfugiés politiques parce qu'ils fuient tout simplement les combats. Tous ne sont pas des militants. Mais il y en a un certain nombre qui sont simplement des civils et qui essaient de se mettre à l'abri de l'autre côté de la frontière. 500 000. Alors ce qu'on ne sait pas, ou qu'on ne dit pas, c'est que dans l'année qui suit, 350 000 d'entre eux vont revenir en Espagne. Parce que cela a peut-être été un petit peu impensable dans l'histoire de l'exil républicain de dire que sur 500 000, il y en a 350 000 qui se disent « bon, moi je reviens malgré tout ». L'exil est de toute façon un arrachement. C'est un déchirement. On quitte tout. Tous ceux qui forment votre environnement. Tous ceux qui vous faisiez vivre aux yeux des autres. Et donc, il y en a beaucoup qui décident de revenir. Bon, c'est pas le lieu de parler de ce qui se passe en Espagne, mais finalement, l'exil qui reste en France, pour les républicains espagnols, ben, c'est à peu près 200 000 personnes. 200 000 personnes qui, eux, sont souvent des gens très engagés, qui étaient des militants politiques, et qui savent que s'ils reviennent en Espagne, ben, ce qui les attend, c'est la prison ou c'est l'exécution. Donc, pendant toute cette période, il y a donc des migrants qui viennent pour des raisons économiques et des migrants qui viennent pour des raisons politiques ou qui cherchent un refuge, ce qu'on appelle le droit d'asile, bien entendu. Et pendant les 30 Glorieuses, alors qu'un certain nombre de nouveaux migrants arrivent parce que la France recherche des bras, cela malgré une démographie qui repart et qui est importante, eh bien, il y a de nouveaux exilés pour des raisons politiques. Ce sont des Portugais. Alors comment faire le départ là entre ceux qui viennent pour des raisons économiques et ceux qui viennent pour des raisons politiques? Parce que le Portugal est une dictature. C'est Dr Salazar qui est au pouvoir. Et arrivent également d'autres réfugiés d'Asie en particulier. On en a beaucoup parlé à l'époque, les good people. C'est-à-dire ceux qui prennent par des bateaux et qui essaient de quitter le Vietnam en particulier. Et les pays en guerre, dans les années qui suivent, effectivement, des dictatures arrivent, de nouvelles vagues de réfugiés. Autrement dit, c'est un phénomène, je dirais, qui est constant selon les contextes, qui prend tel ou tel aspect, et avec des raisons qui peuvent être mises à l'avant, soit des raisons économiques, soit des raisons de politiques, mais c'est pas seulement politique, c'est-à-dire la recherche d'un droit d'asile. Alors, la question qu'il faut se poser, je pense maintenant, mais comment ces gens qui viennent d'ailleurs sont-ils reçus? Est-ce que l'intégration, c'est quelque chose qui fonctionne? Alors je crois que chez beaucoup de personnes, peut-être pas parmi vous, mais chez beaucoup de personnes, il y a une idée, une croyance, je dirais, c'est que par le passé, l'immigration était d'origine européenne, avec des gens d'une culture proche, des gens qui avaient été formés dans un cadre qui était, depuis des siècles, d'essence chrétienne, et que ces gens trouvaient facilement à s'intégrer parce qu'il y avait une certaine correspondance entre leur culture, la culture du pays de départ et la culture du pays d'accueil. Et que donc l'intégration s'était finalement assez bien passée. Mais que maintenant, avec ces gens qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres cultures, qui viennent par exemple de pays d'islam, qui viennent de cultures musulmanes, je dis de cultures parce que je ne sais pas s'ils sont musulmans après tout, donc tous ces gens, est-ce que c'est pas logique qu'ils trouvent des difficultés à s'intégrer? Avant c'était facile, maintenant c'est difficile. Mais écoutez, détrompez-vous parce que la dernière vague, quelle qu'elle soit, s'est toujours heurtée à l'hostilité. Et je vais vous donner quelques exemples. Bon, d'abord, quelques mots de vocabulaire dans la banalité la plus totale. Ben, les Italiens, bien sûr, c'était les macaroni. Bon, vous allez me dire, oh, c'est pas très méchant. Sauf si vous êtes Italien, que vous traitez un macaroni. Évidemment. Pour celui qui le dit, c'est toujours innocent. Pour ceux qui le reçoivent, ben, ça n'est pas forcément. Ou alors, on les traitait de Christos. Parce qu'ils avaient une religiosité extravertie sur les chantiers où ils côtoyaient les ouvriers français qui, eux, étaient largement déchristianisés. Et qui les regardaient de façon un petit peu étrange. Qu'est-ce que c'est ces gens qui font constamment référence à la Vierge et qui se signent en permanence? Donc, déjà, même cadre religieux, mais en même temps, des approches différentes. Les Espagnols, c'était les Espinguels, c'était les Chicos, c'est plein de choses. Les Polonais, je n'en sais trop rien ce que c'était, mais... oui, les Polacs, bien sûr. Les Polacs. Et on se moquait d'eux parce que les mineurs avaient une tradition en Pologne, c'est d'aller à la mine avec des vêtements blancs. Quelle drôle d'idée. Mais ça montre en même temps que l'on fait attention à sa tenue, à la propreté, etc., etc. Bon, de toute façon, ce n'était pas les mineurs qui l'avaient, c'était leurs épouses. Donc, et puis ils parlaient polonais entre eux, leurs prêtres faisaient la messe en polonais, etc., etc. Les Espagnols rouges, eux, rouges, parce que tous les républicains étaient rouges. Mais ils n'étaient pas tous rouges. Et puis rouge est un terme générique. Il y avait les fascistes et il y avait les rouges. C'était simple. Donc, c'était des fusilleurs de curés, pour certains. C'était des violeurs de nonnes, et pour d'autres, c'était les combattants de la liberté. Donc, vous voyez, l'opinion était extrêmement divisée. Lorsque les Belges sont chassés du village de Drocourt, dans le Nord, en 1892, ils n'ont même pas le temps de fermer leur maison, ils laissent tout en l'état, ils sont agressés par des Français des villages voisins, qui les traitent de vermine, de peau de beurre, et qui les font partir, qui les chassent. À Aigues-Mortes, en 1893, des ouvriers français, des trimardeurs, certains habitants d'Aigues-Mortes participent au massacre qui a lieu dans les Salines. Alors, c'est pas exactement comme il y a eu de mort, officiellement il y en a eu un peu moins de 10, mais bon, il y a eu une chasse à l'italienne dans les marais d'Aigues-Mortes, donc on ne sait pas exactement encore aujourd'hui. Et je vais vous lire quelques textes. Je vous donne des exemples concrets. Alors voici, par exemple, un petit texte qui est apparu dans un journal de l'époque, très lu, qui s'appelle Le Matin. On parle des Italiens. Voici ce qu'on dit. Donc, le journal est contre ces Italiens, dont il faut, je cite, « supporter les allures de ces ouvriers à prix réduit qui viennent sur nos chantiers disputer le pain des Français et qui, non contents d'honorer ainsi la liberté, ont encore le couteau près de leur poche et le revolver dans la ceinture de leur culotte. » Nos compatriotes n'ont point fait le serment de se laisser insulter et frapper sans répondre. Ils ont la main lourde, il est vrai, mais tant pis pour qui les provoque. Je comprends encore qu'on ait des scrupules face à des pays voisins où nous envoyons autant de travailleurs que nous en recevons. L'Angleterre, par exemple, ou la Belgique, mais l'Italie. L'Italie ne nourrit personne et mange chez tout le monde. Elle nous combat politiquement et nous exploite sans rien nous rendre. Oui, parce que l'Italie avait passé une alliance avec l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. L'Italie qui finalement entre en guerre aux côtés de la France, hein, mais qui à ce moment-là est alliée de l'Allemagne. Qu'on se hâte donc de faire une bonne loi sur les patrons qui lui empruntent des ouvriers au détriment des nôtres, et qu'on mette un fort droit à l'entrée de la marchandise nuisible et d'ailleurs folâtée qu'on appelle l'ouvrier italien. Alors, si vous preniez les journaux de l'époque, vous seriez sidéré. Vous aviez la rubrique « Les étrangers ». Et tous les faits divers, facile de trouver des faits divers, et d'en trouver partout, donc tous les faits divers où les Italiens étaient impliqués étaient mis en avant, et l'image, c'était l'Italien le couteau dans la poche ou le revolver dans la ceinture, ou alors l'ouvrier revendicatif, ou alors l'ouvrier soumis. Donc c'était très commode, on avait tous les éléments pour faire face à toutes les situations. L'ouvrier soumis, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire l'ouvrier qui acceptait de salaire très faible, et qui, finalement, faisait pression sur les salaires en général pour les autres ouvriers. Et les patrons qui, eux, avaient intérêt à recruter ces ouvriers à des prix réduits. Alors voici un autre exemple. Vous avez tous entendu parler d'Alain Soral. Alain Soral, proche du Front National, qui développe la thèse du grand remplacement. Eh bien, cette thèse du grand remplacement, j'ai vu des affiches, hein. Alain Soral, voilà, Soral a raison. C'est la meilleure de temps. Hein. Donc, c'est la thèse Soral aujourd'hui. Thèse nouvelle? Pas du tout. Voici, par exemple, l'illustre Maurice Barrès, grand écrivain, grand intellectuel de l'Académie française, qui écrit ceci, entre autres choses. Ceux qui ont un peu réfléchi sur l'évolution des nationalités et qui savent que tous les peuples ont leur jour compté se rendent bien compte du germe de destruction que notre nation porte en soi, le décroissement de notre natalité, l'épuisement de notre énergie depuis 100 ans que nos compatriotes les plus actifs se sont détruits dans les guerres et les révolutions, ont amené l'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui travaillent à nous soumettre. Jadis, nous vivions sous la direction d'idées communes et avec des instincts, bons ou mauvais, qui étaient universellement acceptés comme bons dans toute l'étendue de notre territoire. Aujourd'hui, parmi nous, se sont glissés un grand nombre de nouveaux colons, de formations variées, que nous n'avons pas la force de nous assimiler, qui ne sont peut-être pas assimilables, auxquels il faudrait du moins fixer un drame, et qui veulent nous imposer leur façon de sentir. Ce faisant, ils croient nous civiliser. Ils contredisent notre civilisation propre. Le triomphe de leur manière de voir coïnciderait avec la ruine complète de notre patrie. Le nom de France pourrait bien survivre et même garder une importance dans le monde. Le caractère spécial de notre pays serait cependant détruit, et le peuple installé sous notre nom, sur notre territoire, à la suite de notre histoire, s'acheminerait vers des destinées contradictoires avec les destinées et les besoins des vieux Français. C'est exactement la thèse du grand remplacement. Exactement. Donc, Soral reprend en fait ce que Maurice Barrès a dit il y a bien longtemps. Vous dites oui, bon, mais là, d'accord, Barrès, qui encore le matin, bon, je vais vous lire maintenant Le Cri du Peuple. Le Cri du Peuple, qui est un journal où écrit, par exemple, Jules Guesde, un des grands noms du socialisme français. Voici ce qu'il y a dans le Cri du Peuple. On parle des Italiens. Ils vivent entre eux, ne se mêlant pas à la population, mangent et couchent par chambrée, ainsi que des soldats qui campent en pays ennemi. Ils se mettent à 8, 10, 15 dans une chambre. L'un d'eux est chargé du ménage, la même chambre loge deux chambrées, une de jour, une de nuit, l'équipe qui va au travail immédiatement remplacée par celle qui en revient. C'est grâce à cette promiscuité répugnante, mais fort économe, que les ouvriers italiens réussissent, avec un salaire de 3 francs 25, à mettre de l'argent de côté. Donc, ils campent comme un pays ennemi. Et comme vous n'en êtes pas convaincu, eh bien, voici encore Le Cri du Peuple, et cette fois, c'est un article de Jules Guesde. Et voici ce qu'il dit. 800 000 étrangers qui travaillent à prix réduit et qui font outrageusement baisser les salaires quand ils ne les suppriment pas complètement pour nos ouvriers français expulsés des usines. Autrement dit, si les salaires sont faibles, c'est à cause des ouvriers italiens. Et il parle, je cite, de nouveaux sarrasins. Ben oui, parce qu'on est dans les manuels d'histoire de la Troisième République. Charles Martel arrête les Arabes, les Sarrasins à Poitiers. Enfin, moi, dans mon livre, il y avait marqué les Arabes. Et également, ils volent le pain des Français. Et donc, face à cela, il y a une solution. Alors, évidemment, vous dites cette solution, laquelle, et surtout qu'elle a été annoncée il y a quelques années seulement, eh bien, elle date des années 1880. Cette solution, c'est la préférence nationale. Donc, on va instaurer la préférence nationale pour qu'il n'y ait pas cette concurrence déloyale. Et dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, l'ai-je perdu, c'est pas possible. Le voilà. C'est un article de Gringoire. Gringoire, c'est un journal d'extrême droite. Et Henri Béraud fait la description suivante. On est donc en 1930. Sommes-nous le dépotoir du monde ? Par toutes nos routes d'accès, transformées en grands collecteurs, coule sur nos terres une tourbe de plus en plus grouillante, de plus en plus fétide. C'est l'immense flot de la crasse napolitaine, de la guenille levantine, des tristes puanteurs slaves, de l'affreuse misère andalouse, de la semence d'Abraham et du bitume de Judée. C'est tout ce que recrachent les vieilles terres de plaies et de fléaux, doctrinaires crépus, conspirateurs furtifs, régicides hautains verdâtres, polacs mités, gratins de ghetto, contrebandiers d'armes, pistolets en détresse, espions, usuriers, gangsters, marchands de femmes et de cocaïne. Ils accourent, précédés de leur odeur, escortés de leur punaise. Ils arrivent de tous les côtés, sans relâche, sur les océans, par-dessus les montagnes, à plein train, à plein paquebot, ils arrivent et on les attend. Alors, excusez-moi, mais l'image, avant, on les recevait à bras ouverts, et aujourd'hui, non, ben, vous repasserez. Hein? C'est une reconstruction. Et c'est totalement faux. Alors maintenant, j'en ai presque terminé avec ça, mais enfin, j'ai encore quelques petites choses à dire. L'italophobie, je l'ai évoquée, elle est très largement répandue, mais également l'antisémitisme. L'antisémitisme, puisque vous savez que parmi ces nouveaux venus, il y a des juifs d'Europe centrale, et il y a des juifs allemands qui sont persécutés. Les nazis n'ont pas encore voulu exterminer les juifs, mais ils commencent à les persécuter, donc il y a un certain nombre de juifs allemands qui viennent en France. Mais cela a été utilisé bien auparavant. Par exemple, Charles Maurras, Action française, journal royaliste, xénophobe, nationaliste et antisémite. Je crois que je n'oublie rien. Charles Maurras disait qu'en France, il y avait 4 États confédérés. Autrement dit, c'était l'anti-France. Ce que Vichy considérera comme l'anti-France. Alors l'anti-France, les 4 États confédérés, 1, les Juifs, 2, les francs-maçons, 3, les métèques, les étrangers, ils appellent les métèques, et 4, les protestants. Ben oui, les protestants, mais enfin quand même, la tradition royaliste d'Ancien Régime, c'était l'unité de croyance. Être protestant, c'est oser briser l'unité de croyance. Donc, c'était les 4 États confédérés. Et parmi les 4, il y avait bien sûr les Juifs qui étaient désignés les premiers. Lorsque, par exemple, éclate l'affaire Dreyfus, vous avez tous en mémoire ce capitaine français, mais juif, qui est accusé de trahison vis-à-vis de l'Allemagne, etc. Bien, Barès a cette phrase terrible, terrible, il n'y a plus rien à dire. Qu'il soit coupable, je le tiens de sa race. Point. Donc Dreyfus est coupable parce qu'il est juif. Et vous avez également Truman, qui a son journal, qui va connaître un très grand succès et qui s'appelle La France juive. Et lorsque il y a l'opposition entre Maurice Barrès, que nous connaissons maintenant, et Émile Zola qui va défendre Dreyfus, qui va écrire le fameux J'accuse, et bien Barrès va dire à Zola, « Monsieur Zola, je ne sais pas si il dit monsieur, enfin, peu importe. Monsieur Zola, ce n'est pas la peine que nous débattions. Entre nous, il y a une frontière. Deux points, les Alpes. Monsieur Zola, vous êtes d'origine italienne. Vous venez d'ailleurs. Vous serez à jamais incapable de comprendre les Français. Donc, entre nous, il n'y a pas de débat possible. Car il y a cette frontière, les Alpes. Donc, vous voyez, on est dans cette logique-là. Et en plus, Drummond, avec la France juive, va inventer quelque chose de nouveau. L'antisémitisme était auparavant, c'était un anti-judaïsme. Il était d'essence chrétienne. Drummond apporte autre chose, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la dénonciation, entre guillemets, du capitalisme de proie, représenté par qui ? Par les juifs, exemple Rothschild. Donc, l'antisémitisme se combine avec une tradition ancienne chrétienne et avec quelque chose, entre guillemets, de moderne, si j'ose utiliser ce mot, pour l'antisémitisme à la Drummond. Donc, tout cela fait que, voilà, on ne sait plus, ben, les juifs, mais ils sont français ou ils ne sont pas français ? C'est les Français ou c'est les étrangers ? Et Charles Maurras a déjà répondu. C'est pas la France. Et d'ailleurs, Vichy fera des lois immédiatement antisémites. Parce que l'influence de l'action française sera très importante à Vichy. Mais est-ce qu'il s'intègre, finalement ? Eh bien oui, il s'intègre. Bien sûr qu'il s'intègre. Il s'intègre comment ? Même si la dernière vague subit l'hostilité, le rejet, la xénophobie et tout ce que vous voulez, il s'intègre tout simplement parce que il y a le travail. Beaucoup viennent pour travailler. Et même s'il y a, il y a une thèse là-dessus, hein, des bagarres de chantier importantes à la fin du 19e siècle, et bien même s'il y a cela, ben, les ouvriers immigrés travaillent avec des ouvriers français. Et c'est ainsi qu'on apprend à se comprendre, à se connaître. Et que peu à peu, on en parle la même langue. Et donc, l'intégration se fait par le travail. Et puis ces étrangers, ils ont des enfants. Et ces enfants, eh bien, ils vont à l'école. L'école devient gratuite, laïque, obligatoire à partir des lois du Jules Ferry. Donc ils vont à l'école. Et à l'école, qu'est-ce qu'ils acquièrent ? Ils acquièrent une culture française. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent leur culture originelle. Même si à la maison, ben, c'est mon cas, hein. Même si à la maison, ben, on parle la langue des parents, bien entendu. Et donc on va à l'école et là, ben, on apprend le français. Je dirais bien entendu et bien forcé, de toute façon. Donc, même si à l'école, on reçoit cette culture française, eh bien, on peut en même temps avoir une double culture, une double appartenance. C'est une banalité totale, la double appartenance. Nous sommes tous là à avoir, sans doute, des appartenances multiples. Donc, mais ça n'empêche pas que, voilà, en même temps, cette culture est acquise à l'école. Dans l'intégration, se fait par l'école. Elle se fait aussi par le mariage. On peut rester dans son groupe d'origine, mais on peut aussi se marier ailleurs, évidemment. Donc, par le travail, par l'école, par le mariage, là, l'intégration est en marche. Et on en arrive à la période récente, quand même. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Alors, quand je dis on arrive à la période récente, je raisonne par grand bloc, bien entendu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut donner quelques tendances sur la politique d'immigration ? Est-ce qu'il y a une politique d'immigration aujourd'hui ? Quand je dis aujourd'hui, c'est après la Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il y a eu le droit du sol de 1889-1891. Et une loi est votée en 1927, qui facilite les processus de naturalisation. C'est-à-dire que les étrangers qui vivent en France ont la possibilité de devenir français. Ce que, dans l'action française, on manquait en disant « français de papier ». Donc, on peut devenir français, et d'après la loi de 1927, il suffit d'une résidence de 3 ans en France pour demander la nationalité française. Et jusqu'en 1940, il va y avoir 900 000 personnes qui vont demander la nationalité française et qui vont l'obtenir. 900 000. En même temps, parce que il n'y a pas de monocausalité et que les choses ne sont pas linéaires comme ça, comme on pourrait aimer le penser, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et bien en même temps, il y a la crise en France, depuis les années 30. La crise de 29 arrive lentement en France. Elle est moins forte que dans d'autres pays, mais elle est plus durable. Et à partir de 1932, la crise effectivement se manifeste en France, et la France réagit comment ? Elle réagit par des quotas. C'est-à-dire que ce sont des quantités de travailleurs qui sont autorisés à rentrer en France compte tenu de la situation de l'économie. Et cela est largement approuvé par les syndicats, parce qu'ils considèrent parfois que ces travailleurs étrangers forment une sorte de concurrence lorsque l'emploi devient plus rare. Et également, il y a des incitations au retour des chômeurs. Et un certain nombre de travailleurs étrangers, des immigrés, reviennent dans leur pays d'origine parce que ils sont réduits au chômage. Mais en même temps, la France, depuis 1924, par la bouche de Édouard Herriot, a dit que le droit d'asile faisait partie de la doctrine républicaine. Ça date, je vous signale, de la Révolution française. Mais Herriot, en 1924, c'est la période de ce qu'on appelle le cartel des gauches, Herriot, en 1924, dit que voilà, ça fait partie de la doctrine républicaine. Donc c'est quelque chose qui ne se discute pas. Ça fait partie de l'histoire de la France. Et alors, il se trouve qu'en 1940, lorsque Vichy est installé, Vichy revient très vite sur les nationalisations, sur les naturalisations plutôt, qui ont été faites depuis 1927. Et vous le savez sans doute, 15 000 personnes qui avaient reçu la nationalité française sont dénaturalisées par Vichy, perdent leur nationalité française. 15 000, et vous savez que ensuite la résistance reviendra sur cela, bien entendu. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale est terminée, en 1945, il faut reconstruire le pays, il y a le baby boom, mais en même temps, on a besoin de main-d'œuvre, et on va chercher la main-d'œuvre dans les pays où on passe pour en disposer. Et les grandes entreprises vont faire leur marché dans les colonies ou dans ou hors de France. J'emploie ces expressions parce que, en théorie, l'Algérie, c'est pas la France, bien entendu, on le sait. Et en théorie, l'Algérie, qui est divisée en départements français, donc les Algériens sont citoyens français, ils sont français, mais certains ne sont pas citoyens en même temps. Donc on va chercher ces personnes-là qui peuvent venir travailler en France. Et après la fin de la guerre d'Algérie, de 1962 à 1973, les Algériens auront un droit de circulation, c'est-à-dire qu'ils pourront venir librement travailler en France. Donc, on va chercher des ouvriers à l'étranger, et donc c'est la période de 30 glorieuses. Il y a du travail pour, je dirais, tout le monde. Le chômage, c'est un chômage, je dirais, qui ne concerne que des personnes qui abandonnent un emploi pour en chercher un à de meilleures conditions. On est dans une situation dynamique, conquérante. Et arrive 74. Et 74, vous le savez tous, c'est la fin de l'immigration. Ou plutôt, c'est théoriquement la fin de l'immigration. Les autorités françaises mettent fin à l'immigration. Avec l'accord de la plupart des syndicats, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. La CFDT montre son opposition, mais les syndicats en général acceptent assez globalement cela. Donc, ça signifie que puisqu'on met fin à l'immigration, les travailleurs étrangers qui sont en France, qui restent, vont s'installer. C'est une installation durable. Et comme c'est une installation durable, on accepte ce qu'on appelle le regroupement familial. Les travailleurs étrangers qui vivent en France et qui ont un emploi peuvent faire venir leur famille. Mais comme on met fin à l'immigration, ça veut dire en même temps qu'il faut maîtriser les flux. Ce qui veut dire qu'il faut contrôler l'arrivée d'hypothétiques travailleurs étrangers aux frontières. Mais comme le contrôle des frontières total est quelque chose de toujours illusoire, il y a aussi ce qui arrive clandestinement. Et donc il y a des emplois clandestins qui apparaissent. Et si des personnes travaillent clandestinement, c'est parce que certains les font travailler clandestinement, bien entendu aussi. Et donc on s'installe dans cette situation que l'on complète par une autre mesure qui sont les lois du retour. C'est-à-dire que de 1977 à 81, on incite un certain nombre de personnes à partir avec des aides, parfois avec des pressions, mais donc il y a un certain nombre de personnes qui repartent vers leur pays d'origine. Mais en même temps, on reconnaît toujours la validité du droit d'asile, mais le droit d'asile qui doit avoir un traitement spécifique. Donc la France se ferme aux travailleurs immigrés, mais la France maintient cette tradition du droit d'asile. Alors l'historien Ralph Short dit ceci, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, il dit ceci, la France, à propos du droit d'asile, la France accomplit son devoir d'humanité, même si c'est à contre-cœur. Et Michel Rocard par la suite dira, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si elle doit prendre sa part. Alors, vous voyez, voilà des déclarations. Rocard, c'est plus large, Short, ça concerne vraiment le droit d'asile. Mais dans la période qui suit, à partir de 81, on va vers un consensus non dit, mais un consensus de fait, malgré des affrontements qui peuvent être parfois verbalement violents. Mais on va vers un consensus, sauf sur un point, sur le point des régularisations. Puisque, je vous ai dit, il y a des gens qui ont quand même franchi les frontières. Et comme les frontières étaient théoriquement fermées et qu'ils les ont quand même franchies, bon, ce sont donc des personnes qui sont en situation irrégulière. Et donc, en 1981, le gouvernement Mauroy décide de régulariser. C'est une régularisation au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir et les dossiers sont examinés. Il y a 147 000 dossiers qui sont déposés. Sur les 147 000 dossiers qui sont déposés, 132 000 sont acceptés. Autrement dit, il y a une régularisation large. Il y a ensuite une autre régularisation sous le gouvernement Jospin en 1997. Et là, ce sont 137 000 dossiers qui sont déposés. Donc ça veut dire qu'entre les deux dates, il y avait eu de nouveaux passages clandestins. Forcément, mais il y en a toujours. Hein. La théorie, c'est la théorie. Après, il y a la réalité. Donc, 137 000 dossiers déposés et 87 000 régularisations. Mais malgré les affrontements qui ont eu lieu à ce moment-là, il y a un consensus de fait. Quel est ce consensus? Premièrement, je dirais le personnel politique, là-dessus est d'accord. Hein. Malgré des sensibilités différentes qui peuvent s'exprimer, mais globalement, il y a accord là-dessus. Le premier point d'accord, c'est stabilisation du nombre d'étrangers en situation régulière. Donc, l'immigration, elle est stoppée. Donc, il y a stabilisation du nombre d'étrangers en situation régulière. Volontariat pour l'aide au retour. Il y a une aide au retour, mais c'est aux intéressés qui sont concernés éventuellement par le retour à faire la demande. Donc, aide au retour sous la forme de volontariat. Et bien entendu, la maîtrise des flux. Puisqu'il y a stabilité du nombre d'étrangers installés de façon régulière, il y a toujours cette maîtrise des flux qui est recherchée. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un nouvel acteur. C'est le Front National. C'est le moment où Le Pen a cette phrase fameuse qui dit que il faut, je cite, entre guillemets, organiser dans la dignité. organisé dans la dignité le départ de 3 millions d'immigrés non européens. Vous avez bien tout perçu. Dans la dignité, je ne sais pas, bon, mais 3 millions d'immigrés non européens. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par immigré. Qu'est-ce que ça veut dire immigré? Alors les gens utilisent le mot immigré comme ça, immigré et aussitôt traduction étranger. Faux. Immigré, ben, comme cela a été précisé, ça ne veut pas dire, que ce sont forcément des étrangers. Il y a des immigrés qui semblent français. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger et qui vient dans un pays. Je ne sais pas, moi, je vous prends un exemple familial. Mes parents sont arrivés, ils étaient espagnols. Donc, c'était des immigrés étrangers. Et puis, un jour, ils ont demandé leur naturalisation. Ben, ils se sont devenus, ils étaient toujours immigrés, hein. Ils étaient toujours nés au même endroit, hein. Et ils sont devenus français. Donc, immigré, ça ne veut pas dire étranger. Immigré, ça veut dire étranger ou français. Bref, ça ne veut rien dire. Et, par exemple, en 2008, le chiffre 2008, il y avait 5 600 000 immigrés, ce qui représente 8,6% de la population. Aujourd'hui, on est un petit peu plus, on est à, sans doute autour de 10%. Mais sur ces 5 600 000, il y avait 2 300 000 Français et il y avait 3 300 000 étrangers. Mais tous sont regroupés sous le terme de immigrés. Donc, lorsqu'on emploie le vocabulaire, mais parfois le vocabulaire est piégeux. Et parfois, il y a des idées qui sont plaquées là-dessus et qui ne correspondent pas à la réalité. Et le problème va ensuite se focaliser sur autre chose, va se focaliser sur les banlieues. Parce que, faut bien comprendre que les banlieues, qu'on n'appelle pas banlieues, qu'on appelle grands ensembles. Les grands ensembles, dans les années 60, 1960, qui ont été construits entre parenthèses par ceux qui vivent dans les bidonvilles, hein, et qu'on ne voit pas, ils sont à l'écart, ils sont dans les bidonvilles, eh bien ces grands ensembles sont le haut lieu de la modernité. Je ne sais pas si vous avez vu ces grands ensembles, moi j'avais des amis quand j'étais gamin qui avaient un logement dans un grand ensemble. Il y en avait un qui s'appelait Chambord, vous vous rendez compte? Eh oui. Et j'étais allé chez lui. Et c'était magique. Vous ouvrez un robinet, l'eau chaude coulait. Il y avait la salle de bain. Vous n'étiez pas obligé d'aller toutes les semaines aux bains-douches municipaux. Donc vous aviez le confort moderne. Et à ce moment-là, dans ces grands ensembles, on trouvait tout le monde. C'est-à-dire qu'on trouvait ceux qui avaient des revenus modestes, mais qu'on trouvait aussi ceux qui étaient dans un parcours individuel ascendant. On trouvait des cadres, on trouvait, je ne sais pas moi, des ingénieurs, des médecins, etc., qui ensuite sont partis. Parce que le Français qui a les revenus suffisants, il rêve de quoi? Il rêve de sa maison, de sa villa, de son pavillon. Et donc tous ceux qui pouvaient partir parce qu'ils avaient des revenus suffisants sont partis. Et d'autres sont arrivés à leur place, qui avaient des revenus modestes. Et puis, à partir des années 80, ces grands ensembles se sont dégradés. Ils ont mal vieilli. On disait que lorsque au 15e étage, une bille était perdue, au bout de quelques mois, on la retrouvait au rez-de-chaussée. Donc, elle arrivait, elle passait par des voies inconnues. Autrement dit, ces grands ensembles se sont dégradés. Et peu à peu, ceux qui sont restés se sont retrouvés coincés dans ces grands ensembles. Et ces grands ensembles sont devenus, peu à peu, des quartiers de relégation. Je ne parlerai pas de ghettoisation. Donc, de relégation. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et vous savez que certains de ces quartiers sont devenus des us. Des zones urbaines sensibles. Et dans ces zones urbaines sensibles, on sait aujourd'hui que 52% de la population est d'origine maghrébine. Et que ce sont des gens qui accumulent les handicaps sociaux pour de multiples raisons. Parce que les jeunes sont là plus frappés que les autres par le chômage. Pourquoi ? Mais parce que la réussite par rapport à la réussite à l'école, l'attitude n'est pas la même selon les origines. On sait très bien, par exemple, que les enfants dont les parents sont d'origine asiatique investissent beaucoup dans l'école. Et on sait, par exemple, c'est pas un secret, hein, suffit de lire un peu, hein, que les filles d'origine turque ont les résultats les plus faibles. Et lorsque vous n'avez pas de diplôme et que vous êtes dans une ZUS, vous êtes coincé. Donc ça devient des quartiers de relégation. Et toutes les promesses, tout ce qui peut être miroité à partir de l'intégration, mais ça ne marche pas. Et donc, à ce moment-là, vous savez qu'à partir des années 80, dans les banlieues, il y a régulièrement, périodiquement, des émeutes urbaines, qui sont un symptôme qui nous dit qu'effectivement, il y a ce mal-être des banlieues, et que toute la société française le dit depuis 30 ans. Alors on met en place la politique de la ville, on s'occupe du cadre, plus ou moins, on essaie d'améliorer, mais les habitants meurent. Et quand je dis on essaie de l'améliorer, il n'y a qu'à voir comment c'est dans certains quartiers. Quartier de relégation, le mot, bon, je crois qu'il vient quand même ce qu'il veut dire. Donc il y a ce problème donc, qui émerge, et après une émeute urbaine, ben, on se dépêche peut-être d'oublier ce qui s'est passé il y a quelques années. Heureusement, il n'y en a pas eu depuis un certain nombre d'années, mais bon. Bon, il est vrai que maintenant, il y a d'autres difficultés dont je vais parler qui apparaissent. Mais en même temps, il y a une enquête qui a été publiée il y a quelques jours. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de la lire. Elle fait 600 pages. C'est un travail qui a été fait sur 10 ans. Elle a été publiée, cette enquête, le 8 janvier 2016. C'est une enquête qui a un nom qui s'appelle « Trajectoires et origines ». Des dizaines de chercheurs, sous le cadre de l'INED, Institut National des Études Démographiques, et de l'INSEE, ont interrogé des milliers de personnes et ont fait des enquêtes de terrain pour essayer de voir comment ces personnes-là vivaient leur intégration, rien ou pas. Donc on leur a posé des questions, et tout cela a été publié, donc, très récemment, 600 pages. Alors, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que, chez ces populations, l'attachement à la France est fort. Autrement dit, ce sont des populations qui se sont intégrées, qui ressentent leur appartenance à la communauté dans laquelle elles vivent. Et ces populations se reconnaissent dans le monde de vie, qui est notre monde de vie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais bon, nous avons un mode de vie quand même qui nous caractérise. Et chaque pays a un mode de vie, même s'il y a des points communs, bien entendu, entre beaucoup de pays. Mode de vie, les valeurs de la République, et parmi elles, la laïcité. Également, cette enquête montre qu'il n'y a pas de repli identitaire de la seconde génération. Et que si cela peut exister, ce n'est certainement pas une attitude générale. Et ça peut être l'attitude d'individu ou de minorité. Il n'y a pas de repli identitaire de la deuxième génération. Que l'école est ressentie comme un moyen de promotion. Parce que l'école délivre des diplômes. Et qu'en même temps, le mariage se fait de plus en plus hors de la communauté d'origine. Exemple, pour les hommes, les jeunes hommes qui se marient ou qui vivent en couple, vont chercher leur épouse ou leur compagne à 67% hors de leur communauté d'origine. Pour les femmes, un petit peu moins, 62% hors de la communauté d'origine. Donc ça veut dire qu'on se marie très largement en dehors de sa communauté d'origine, en tout cas majoritairement. Et également que l'on délaisse assez vite la langue de ses parents. La langue des parents, c'est souvent la langue maternelle, c'est la langue à la maison. Pour la génération où la femme ne travaillait pas, c'est vrai pour les Espagnols, hein, très souvent, la femme restait à la maison, le mari allait travailler. Et bien souvent la langue avec la mère, c'était la langue, pour les Espagnols, c'était l'espagnol. Et le mari, lui, apprenait assez rapidement le français parce qu'il était ailleurs, il était sur des chantiers, il avait des collègues, etc. Et donc là, il semblerait que ces populations délaissent assez rapidement la langue maternelle, ou la langue familiale, disons. Mais en même temps, il y a une asymétrie. C'est-à-dire, autant d'un côté, on vit un sentiment d'appartenance, autant de l'autre côté, ben, on ressent des choses qui s'imposent à vous. Et en particulier, voici quelle est la perception des intéressés. Ils estiment qu'ils sont victimes du chômage davantage que ceux qui appartiennent à la population majoritaire. Pourquoi ? Ah, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Ils se sentent discriminés, et ils le disent. Ils se sentent discriminés, pourquoi ? Mais d'abord, ils sont globalement moins diplômés que ceux de la population majoritaire. Pourquoi ? C'est pas aussi vrai pour les garçons que pour les filles. Les filles réussissent mieux. Mais selon certaines origines, elles réussissent moins bien. Je parlais des jeunes filles turques, en particulier. Il y a aussi les élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme. Et est-ce qu'ils sont plus nombreux ? Bon, là, je n'ai pas vu d'enquête, je ne sais pas comment on peut le quantifier, mais en tout cas, toujours est-il que ce chômage est ressenti comme une discrimination selon les cultures d'origine. Selon les cultures d'origine, grands-parents d'origine asiatique ou grands-parents de telle région, etc., etc., et selon, je dirais, la date d'arrivée des parents en France. Donc, il y a des facteurs qui sont assez fins, qui semblent jouer. Ils s'estiment également discriminés par rapport à l'emploi, lorsqu'ils sont en concurrence avec quelqu'un d'autre. Vous savez qu'à un certain moment, on a prévu des CV anonymes, justement pour essayer de lutter contre cela. Donc si on essaie de lutter contre cela, c'est donc que c'était quand même une réalité. Ils se sentent discriminés également au niveau de l'emploi. Au niveau du logement. Et parfois même au niveau des loisirs. J'ai entendu tout à l'heure la représentante des éclaireurs de France. On dit les éclairs maintenant. Moi, quand j'y étais, on disait les éclaireurs de France. On raccourcit les choses. Donc, cette volonté d'associer des enfants d'origine différente, de cultures différentes, donc dans des activités communes. Et encore aujourd'hui, certains se sont discriminés dans les loisirs. Alors, réalité ou pas, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ressentent. Et les indicateurs d'exclusion sont une réalité, par exemple, hein, comme je le disais, en fonction des cultures d'origine. Mais l'échec scolaire, je pense, joue un rôle très important dans cette discrimination au niveau des diplômes, de l'emploi, etc. Mais en même temps, bon... c'est très complexe tout ça, parce que moi je ne suis pas là pour vous suggérer des solutions. Hein. J'essaie de vous dire ce que j'ai perçu. Alors après, les solutions, elles sont d'une très grande complexité, parce que ça fait des années et des années qu'on en parle, et c'est toujours le même problème qui revient. Ce qui est, je ne sais pas si c'est décourageant, mais en tout cas c'est agaçant. Cela dit, la France reçoit tous les ans, entre 80 000 et 120 000 personnes qui viennent d'où ? Ce sont des époux ou des épouses de Français. Oui, il y a des couples qui sont d'origine différente. Donc, le conjoint a le droit de rentrer. Il y a également des familles étrangères qui arrivent. Je vous signale quand même que immigrer, ça ne veut pas dire la même chose encore, parce que les Européens qui sont dans l'espace de Schengen, ils peuvent se déplacer totalement librement. Vous avez également des réfugiés politiques qui bénéficient de droits d'asile. Et donc, lorsqu'on ajoute tout cela, année après année, ça fait entre 80 000 et 120 000 personnes. Avec quand même une difficulté, je veux dire, d'un point de vue technique. Parce qu'à un certain moment, on a dit que les étudiants, fallait les compter, alors que dans d'autres pays, on ne les compte pas. Parce que les étudiants, par définition, ils viennent se former pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et ensuite, ben, ils reviennent chez eux. Et il y en a certains, effectivement, qui décident de travailler en France. Et qu'ensuite, après avoir travaillé quelques années en France, vont chez eux. Ce qui, finalement, n'est pas une mauvaise chose, parce que c'était également, je dirais, des relations qui se nouent, ne serait-ce que d'un point de vue économique, entre la France et les pays d'origine de ces étudiants. Surtout lorsqu'ils ont fait des études supérieures. Donc, il y a ces personnes qui rentrent en première année, et il y a aussi, tous les ans, autour de 5000 naturalisations. Ça varie un tout petit peu. Mais c'est toujours autour de 5000 personnes qui sont naturalisées tous les ans. Il faut ajouter à cela les demandeurs d'asile. Alors, je pense bien que sur les demandeurs d'asile, c'est le point délicat, difficile, parce que le nombre de demandes pour 2014, hein, ce sont les chiffres officiels. En 2014, y compris avec ceux qui demandent le réexamen de leur cas, hein, qui ont été écoutés la première fois et qui demandent le réexamen, il y a eu 64 811 demandes. Et sur 64 811 demandes, il y a eu 14 589 personnes qui ont été donc reconnues éligibles au statut de réfugié. Donc, le droit d'asile existe toujours, bien entendu, mais en même temps, vous voyez que le nombre de demandeurs est très élevé par rapport au nombre de demandes qui sont accordées. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la globalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus raisonner à l'échelle d'un territoire. On ne peut même plus raisonner à l'échelle de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, ben, une région du monde est totalement déstabilisée. Cette région du monde, vous le savez, c'est le Moyen-Orient. Je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique, mais je vais quand même vous dire 2 ou 3 petites choses. Vous savez, De Gaulle, lorsque, je crois, en 1944 ou 1945, s'est envolé vers l'Orient, il a eu cette phrase qui est célèbre, je vous l'ai dit, qu'il allait vers l'Orient complexe avec des idées simples. Bon. Idées simples, je ne sais pas, mais toujours est-il que le Moyen-Orient est aujourd'hui totalement déstabilisé par des interventions militaires, celles des Occidentaux, en Irak, par exemple, mais également en Libye, totalement déstabilisé par des guerres civiles, je pense par exemple à celle de Syrie, déstabilisé également par les oppositions très fortes qui existent entre sunnites et chiites, dans les pays sunnites et en particulier l'Arabie Saoudite, la montée du wahhabisme, du salafisme, c'est-à-dire une lecture de l'islam littérale, c'est-à-dire que l'on prend les choses vraiment au sens premier. Bon, évidemment, il faudrait peut-être contextualiser d'un point de vue historique. Et une phrase prononcée ou écrite à un certain moment a une signification, et peut-être que le monde évoluant n'est pas totalement adapté au monde d'aujourd'hui. Bon, mais enfin. Et on voit également l'émergence de ce groupe qui se fait appeler État islamique et qui prétend imposer une unité de croyance, mais un mode de vie et des règles qui sont des règles, je dirais, qui rejettent l'autre. Et y compris, c'est dans un pays sunnite, plutôt ce sont des sunnites, mais en même temps, les attentats touchent d'abord des pays musulmans. D'abord. Et d'abord des pays sunnites. Alors qu'eux-mêmes sont sunnites. Mais on a d'une certaine vision donc, de l'islam. Et tout cela génère des réfugiés nombreux, je crois que ça a été évoqué, des réfugiés au Liban, des réfugiés en Jordanie, des réfugiés en Turquie, et ces réfugiés qui vivent dans des conditions épouvantables. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Europe finance en particulier la Turquie pour qu'elle retienne dans ses camps les réfugiés qui s'y trouvent, pour que les conditions de vie soient un petit peu moins pires. Et donc, au risque de leur vie, beaucoup partent, traversent une partie en Méditerranée pour arriver dans des îles qui sont grecques, mais qui sont la porte d'entrée à l'espace de Schengen. La Grèce qui n'en peut mais, puisque la Grèce n'a pas les structures pour recevoir toutes ces populations, mais ensuite ils se mettent en marche. Et ben, on les a tous vus, hein, se mettent en marche vers des pays qui souffrent au départ, ensuite un peu moins, vers l'Allemagne. Un million, hein. Un million en Allemagne. Bon, pour des raisons diverses, il faut être naïf non plus, hein. Pour des raisons politiques, idéologiques, démographiques et économiques. Bon, il y a des pays qui se ferment, la Hongrie très tôt, la Pologne, plus récemment le Danemark, la Suède. Il y a des pays qui s'entrouvrent timidement, la France. Et puis, il y a des conditions qui sont parfois totalement épouvantables de ces migrants. Ben, écoutez, oui, parce que certains de ces migrants ne veulent pas s'installer en France. Ils veulent aller vers l'Eldorado, qu'ils imaginent, l'Angleterre. Or, la France a signé un accord avec l'Angleterre, je crois que c'était en 2006, qui faisait que c'était la France qui devait empêcher les migrants qui voulaient aller en Angleterre, qui devaient les empêcher de partir. D'où tout ce qui se passe à Calais. Mais comme Calais aujourd'hui est de plus en plus surveillé, que font-ils ces migrants? Ils vont vers Dunkerque, ou en tout cas dans la banlieue de Dunkerque, une ville dont j'oublie le nom, mais je pense que quelqu'un va me le dire, c'est un maire...
Grande-Sainte.
Donc là, le maire, effectivement, est totalement dépassé par le nombre de personnes qui arrivent. Il a un projet de création d'un centre d'accueil selon les normes du HCR, au commissariat aux réfugiés. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et puis, vous avez d'autres migrants qui partent d'Afrique, qui sont chassés par la misère, où les raisons économiques jouent un rôle déterminant, de l'Afrique subsaharienne en particulier. Et on pourrait parler du rôle que jouait la Libye jusqu'à une certaine période, mais enfin, bon, je crois qu'on peut quand même s'arrêter là, mais si vous avez des questions, et si je peux répondre, ce sera avec plaisir. Je vous remercie.
Bonjour, je me suis régalée à vous écouter comme d'habitude. Est-ce que vous avez un avis, une interprétation sur les événements de Cologne la nuit de la Saint-Sylvestre où il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles et il semblerait que les auteurs de ces agressions étaient en majorité des hommes originaires du Maroc, Tunisie, Algérie, un peu syrien. Enfin.
J'ai pas d'avis parce que je connais pas le dossier. Non, je n'ai pas d'avis particulier, effectivement, je sais ce que vous savez tous. C'est-à-dire qu'il y a eu ces agressions au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, à Cologne en particulier. La police dit qu'elle a identifié un certain nombre des agresseurs, mais je n'en sais rien. Non, là, franchement, je peux difficilement vous donner une réponse. Alors après, bon, je ne sais pas si... l'image de la femme est indifférente. Mais je ne sais pas si ça peut jouer, si ça ne peut pas jouer, quelles sont les motivations, bon. Mais, question difficile. Et j'aurais bien quelques idées, mais elles seraient gratuites. Alors, je n'ose pas les exprimer en public.
Quelle était la situation dans notre département? Est-ce qu'il y a des réfugiés au sens où on emploie ce terme maintenant? Est-ce que le département en accueille? Quelle est la situation ici?
Alors moi je n'ai pas la compétence pour répondre, il y a des personnes dans la salle qui pourront le faire. J'ai simplement entendu dire par un ami, qui généralement bien informé, que dans un village des Hautes-Pyrénées, on allait recevoir des Syriens. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, s'ils devaient arriver, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux.
On, on va donner la parole à la CIMAD.
Tout à fait.
Qui a les chiffres qui permettent de comprendre la situation sur le département.
Je ne sais pas si on a les chiffres. Alors, si on parle des réfugiés, alors je suppose que tout le monde entend réfugiés syriens, irakiens, c'est ce que tout le monde entend, je suppose. Alors qu'il y a d'autres réfugiés que des gens de ces nationalités-là dans le département des Hautes-Pyrénées. Donc, c'est quand même des personnes qui bénéficient d'un circuit parallèle aux demandeurs d'asile, entre guillemets, ordinaires. Donc, moi, nous avons connaissance des 20 Calaisiens, là, donc, à majorité. Alors, c'est même pas. Nous n'avons l'information que de la presse, hein. Donc, j'ai vu qu'il y avait des Koweïtiens, qu'il y avait des Irakiens, des Érythréens. Bon, apparemment, il n'y aurait pas de Syriens. Les Irakiens sont implantés, quelques-uns sur Lourdes, depuis plus d'un an. Moi, je ne sais pas les chiffrer du tout, parce que c'est vraiment des circuits qui ne passent pas par les circuits normaux. Alors, la préfecture doit avoir des chiffres, effectivement, mais ce n'est pas des chiffres dont nous avons connaissance.
Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas...
Ce que je veux dire quand même, c'est que la France, au jour d'aujourd'hui, elle a accueilli 500 Syriens, de manière légale. Sur les 500, il paraît qu'il y en a un tiers qui sont partis en Allemagne. Alors, on est loin de ce qui se passe au Liban, en Turquie et même en Allemagne.
Alors, par rapport aux demandeurs d'asile, est-ce que vous pouvez nous préciser, en dehors de ceux que vous avez évoqués, les chiffres qui concernent le département? Parce qu'il y a des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile.
Oui, alors, c'est pas comme ça que ça se comptabilise. Les chiffres, c'est les personnes qui arrivent dans le département pour demander l'asile. Et ça, il faut le déconnecter des centres d'accueil, demandeurs d'asile, des CADA, parce que c'est un dispositif national. Alors, il y a des gens qui arrivent dans les Hautes-Pyrénées pour demander l'asile, qui intègrent les CADA du département, mais c'est pas majoritairement. Donc, nous, on peut dire que pour l'an passé, on a accueilli à la CIMAD, parce que là, on n'a pas les chiffres encore nationaux, 87 adultes demandaient l'asile en France, avec accompagner les 47 enfants. Parce qu'il y a des personnes seules, il y a des couples, et il y a des couples avec enfants. Par contre, le chiffre national 2014, c'était, alors je ne parle pas comme vous avez fait tout à l'heure, je ne mélange pas avec les réexamens, parce qu'ils sont déjà sur le département. Et il y en avait 77. Chiffre national donné au département des Hautes-Pyrénées. Nous, CIMAD, nos statistiques de 2015, on en est à 87. Et tous les demandeurs d'asile du département ne passent pas par les permanences de la CIMAD.
La distinction que fait Geneviève Béfourque entre réfugiés et demandeurs d'asile s'impose par le fait que le réfugié a un statut qui a été défini par la Convention internationale de Genève de 1951, ce que José Cubero rappelait tout à l'heure. Donc, et le demandeur d'asile va demander à accéder à un statut de réfugié. Donc, il y a vraiment une distinction très nette à faire, et effectivement, il y a, comme tu le rappelais tout à l'heure, il y a eu, on peut dire, aux alentours de 60 000 en France, demandeurs d'asile, et on a eu une légère baisse en 2014 et une légère remontée en 2015 du fait des événements syriens. Bon, après, je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle, et donc je ne vais pas m'éterniser.
Oui, moi je me demande s'il n'y a pas une espèce de retour des choses entre les banlieues, ce qui s'est passé dans les banlieues, le traitement qu'on a fait de ces jeunes gens, avec les événements de Syrie, enfin, et puis Daesh, c'est pas une espèce de base communicant. et que ça ne soit une réaction contre les Européens, enfin contre les pays développés qui ont envahi les territoires Irak, Iran, etc.
Vous voulez parler de quoi exactement ?
Alors, je parle, si vous voulez, d'aujourd'hui, la traque qu'on leur fait, puisque on va même les chercher, la police va même les chercher dans des circuits qu'ils auraient fait, etc., ou des allégations qu'ils auraient fait, ou des écoutes qu'ils font. Je veux dire que ça va. C'est pire que l'inquisition, hein.
Oui, vous voulez parler de ce qui est lié aux attentats. Oui. Bon, par rapport aux attentats et par rapport à certains comportements, la question est très difficile. Question est difficile parce que il y a des jeunes gens, très peu nombreux, même si c'est quand même significatif, qui se sont radicalisés. La question est de savoir, est-ce que c'est un islam radicalisé ou est-ce que c'est une radicalisation qui utilise l'islam comme cadre? Moi, je pense plutôt cela. C'est-à-dire que vous avez parfois des jeunes gens qui sont dans la délinquance, qui sont des caïds, entre guillemets, et qui tout à coup basculent. Et que leur radicalité qui existait dans la délinquance devient une radicalité qui se cherche un autre cadre. Certains même étant de nouveau convertis. Et qui basculent par un mécanisme qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Mais ça ne veut pas dire que la société doit pas être vigilante. Parce que par ces attentats, c'est la négation de ce que nous sommes. C'est la négation de notre mode de vie, c'est la négation de la laïcité, c'est la négation de l'égalité de l'homme et de la femme, ce qui rejoint un petit peu une question qui a été posée tout à fait au début. Donc, moi je pense que là, effectivement, il y a un phénomène de radicalité qui parfois peut être anticipé. Et le problème, c'est comment la société se défend lorsqu'elle est ainsi menacée. Et moi, je crois que la société a le droit et le devoir de se défendre. Parce que ce qui est représenté, ben, c'est la négation, finalement, de ce qu'on est. De tout ce qu'on croit. Et là, moi, à mon avis, il n'y a pas de compréhension possible. On peut essayer de comprendre une situation donnée, on peut essayer de l'analyser. Mais je dirais, chercher une compréhension par rapport à ce basculement, ben là, que lorsque quelqu'un en face nie tout ce que l'on est, et au nom de quelque chose qui ne se discute pas, alors je ne sais pas si vous faisiez allusion à ça, mais après il y a l'état d'urgence. Non, oui. Attendez, on vous donne le micro.
Je fais allusion à tout ce qui s'est passé en Palestine, par exemple.
Oui.
Toutes ces vexations,
oui,
et toutes ces répressions qu'ont eues généralement les Arabes. Et donc, il faut que, d'une certaine manière, l'invasion par les États-Unis de l'Irak, c'est quand même quelque chose.
Ça, je suis d'accord.
Hein? Je veux dire que, de ce point de vue, la réaction ne m'étonne pas. Enfin, je veux dire, c'est une belle réaction. Non, ne m'étonne pas. Mais ça ne veut pas dire que ça soit une réaction saine, hein, de toute façon.
Oui, je comprends.
Hein? Mais ça l'est. Et je crois que c'est nous qui avons déclenché toutes ces violences. Enfin, je veux dire, nous, ceux qui sont pour.
Enfin, on peut discuter longtemps. Moi, je ne crois pas que nous soyons nous à l'origine de ce basculement dans la radicalité de cette façon-là, que effectivement nous ayons laissé entrevoir que les portes de l'intégration étaient largement ouvertes et que cela n'ait pas fonctionné conformément aux attentes qui étaient légitimes. Mais disons que le problème de la Palestine ou l'intervention effectivement des Occidentaux en Irak, ben, ça ne peut pas justifier une radicalité telle qu'elle s'exprime aujourd'hui à travers des attentats. Ça me, voilà. Mais en même temps, moi, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais disons que moi, par rapport à des gens qui n'hésitent pas à tuer et à mourir, parce qu'ainsi ils sont persuadés que je ne sais pourquoi, ben moi je... voilà, j'ai, à ce niveau-là, j'ai pas de compréhension. Je me refuse d'avoir une compréhension.
Je crois qu'il ne faudrait pas mélanger cette question de terrorisme et d'attentat et la question des migrations et de l'immigration et des migrants. C'est un amalgame que cherchent à faire un certain nombre de gens parce que ça les arrange et parce que ça donne des arguments à un anti... comment on dit déjà, je me rappelle... Un anti-accueil, oui, enfin, des gens qui ne supportent pas ce risque fantasmé d'être envahi ou d'être submergé par des modes de vie ou par des comportements qui seraient destructeurs pour notre société. Si je reviens sur ce qui se passe dans le département et sur les conditions que nous connaissons, depuis des années et des années, les personnes qui arrivent ici sont des gens qui viennent majoritairement des pays de l'Est, on peut dire. Donc ils ne sont pas du tout dans ces situations-là, ils ne sont pas du tout porteurs de ces problèmes. Et puis, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de gens qui venaient des régions africaines autour du Congo et de ces questions-là. Ça s'est un petit peu atténué maintenant. Et ce sont ces gens-là qui actuellement, ayant été déboutés en grande partie, puisqu'on a dit qu'en fait, sur les 64 000 demandeurs d'asile de l'année dernière, il y en a eu seulement 14 000 qui ont été acceptés, autrement dit 50 000 qui ont été déboutés. Ça fait à peu près 80% de déboutés. Donc, ces gens restent parce que ils ne peuvent absolument pas repartir chez eux, soit parce que ils viennent de pays en état de guerre, soit pour des raisons de problèmes d'ethnie, de problèmes de religion, de problèmes divers, ou de problèmes économiques. Ils ne peuvent pas repartir. Donc, les problèmes que nous avons, c'est que comment les aidons-nous à rester, à s'intégrer, à faire en sorte de pouvoir obtenir une régularisation qui n'est pas celle de l'asile, ils n'obtiendront pas le statut de réfugié, mais ils peuvent obtenir en demandant aux préfectures, pardon, ils peuvent obtenir un statut provisoire qui leur permet de rester sur place pour pouvoir travailler, pour pouvoir élever leurs enfants, etc., pendant une année renouvelable et quelquefois pas. Voilà. Et avec des risques d'expulsion permanents et des conditions de vie extrêmement difficiles parce qu'ils n'ont pas droit au travail, parce qu'ils n'ont pas droit à un logement, parce qu'ils n'ont droit à peu près à rien, si ce n'est pour les familles qui ont des enfants. Ici, dans le département des Hautes-Pyrénées, ils ont droit juste à une allocation au titre de l'aide sociale à l'enfance. Voilà.
Oui, vas-y. Alors, simplement une remarque. Tu as tout à fait raison de recentrer le débat, mais en même temps, il y a des questions qui sont derrière la tête, et c'est bien qu'on les pose. Mais il ne faut pas rester sur ce plan-là, c'est vrai.
Oui, lorsque vous avez fait l'historique des flux migratoires, vous n'avez pas parlé de l'arrivée des pieds noirs à l'issue de la guerre d'Algérie, pieds noirs et harkis, et quel a été l'accueil qui a été réservé aux uns et aux autres.
Mauvais. Mauvais. Alors, bon, si vous voulez, distinguons un peu. Parce que les pieds noirs, ben, c'est-à-dire les Européens vivant en Algérie, la plupart d'entre eux de nationalité française, même si beaucoup dans la région d'Oran en particulier étaient d'origine espagnole. Hein, Oran, c'est face à Alicante, hein, pratiquement. Donc ils sont de nationalité française et donc eux, ils décident de revenir en métropole, pour employer le terme d'usage. Donc ils sont reçus, il y en a plus d'un million. Plus d'un million. Ils sont reçus, c'est difficile parce qu'il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes d'emploi. Et généralement, ils sont mal reçus. Ils sont mal reçus parce que quand on pense pieds noirs, on pense colons possédant de vastes terres. Ce qui était vrai pour certains, mais je dirais pour une minorité. Il y avait aussi de petits fonctionnaires qui étaient donc dans les départements d'Algérie et qui arrivent en France, et voilà, il faut les caser. Donc ils ont été mal reçus. Quant aux Harkis, ça a été, moi je le considère, scandaleux. Parce que ce sont des gens qu'on a incités à devenir des supplétifs de l'armée française, et une fois que la France donc accepte l'indépendance de l'Algérie, ces Harkis ne pouvaient pas revenir en France. Mesmer avait donné l'ordre, parce que De Gaulle lui avait demandé, lui avait donné l'ordre de ne ramener aucun Harki en France. Pour toujours les mêmes raisons, hein. Musulmans, choc des cultures, etc., etc. Et donc, d'ailleurs, ils ont été désarmés. Je jette un voile sur ce qui s'est passé en Algérie, pour ceux qui sont restés. Ça a été terrible. Et certains officiers ont désobéi. Heureusement. Et ils ont permis à un certain nombre d'artistes de revenir en France. Moi, j'ai vu, j'étais étudiant à ce moment-là, j'étais à Toulouse, en géographie, et notre professeur nous avait amené un jour en excursion de géographie jusqu'à un camp de harkis. Ils étaient parqués dans un endroit, ils pouvaient sortir, hein. C'était pas un camp de prison, bien entendu, hein. Ils pouvaient sortir. C'était un camp dans des endroits où il y avait rien. Ils vivaient là, et c'était parqués, quoi. C'était bon. Et aujourd'hui, les enfants de harkis, je dirais, ils en ont quand même gros sur la patate aussi, hein. Donc ils ont été mal reçus. Les pieds noirs ont été mal reçus, les harkis ont été, je dirais, encore plus mal reçus. Et effectivement, vous avez raison, monsieur. C'est une migration importante qui est spécifique et qui est liée à la fin de la guerre en Algérie. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, hein. Je ne sais pas si vous estimez que la réponse suffit, mais on peut s'arrêter là aujourd'hui peut-être. Oui ? Oui, oui, oui.
Bonjour. En fait, vous avez signalé Soral. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de jeunes gens qui s'intéressent à Soral sans pour autant voter Front National. Je ne suis pas une experte de Soral, j'ai écouté deux ou trois fois et j'ai trouvé un galimatia pas possible. J'ai du mal à distinguer ce qu'il raconte à travers le pseudo-trotskisme, une approche freudienne parfois, des appétences avec la Syrie. Du Front National, donc j'y comprends rien du tout, en fait, et donc je n'arrive pas à me caler pour avoir un discours juste par rapport à l'immigration vis-à-vis de cette personne-là en particulier. Voilà. Alors, si vous aviez deux, trois clés à me donner, ça m'intéresserait.
Bon, pour moi, je parle vraiment ce que je ressens. Hein. Moi, je pense que la nation, ça existe. Mais que la nation, ce n'est pas quelque chose de figé, d'immuable. Je pense que c'est quelque chose qui est en constante évolution. Sans faire de référence à des historiens du passé, mais la nation française est sortie de la grande chaudière de l'histoire. Et elle sort toujours de la grande chaudière de l'histoire. C'est-à-dire que la nation se forge régulièrement, selon les contextes, selon les situations, etc. Et qu'il y a de nouveaux arrivants. Et je crois que, finalement, ces nouveaux arrivants, malgré les difficultés qu'ils connaissent, s'intègrent. Avec une différence quand même qui est difficile à vivre. C'est que des personnes comme moi, on a été des invisibles. C'est-à-dire que dans la société, personne ne nous voyait. Bien sûr, on pouvait avoir un nom à consonance étrangère. Mais lorsqu'on parlait avec les autres, on était comme les autres. Et donc, ça facilite beaucoup. Aujourd'hui, vous avez des personnes, comme disent les sociologues, elles sont plus invisibles. C'est-à-dire que vous voyez à leur aspect physique que viennent par exemple d'Afrique ou viennent d'ailleurs. Autrement dit, on les repère immédiatement comme des gens différents. Alors que ce sont des gens qui se sont intégrés, qui souvent sont devenus français. Et que dans l'histoire du grand remplacement, ben ça, c'est vide de sens. Parce que si on considère qu'être français, c'est avoir un sang français, on n'est pas dans le droit du sang français, des chromosomes français, ou un aspect stéréotypé, mais effectivement, à ce moment-là, vous pouvez dire qu'effectivement, il y a un grand remplacement parce que des nouveaux arrivent. C'est ce que disait Barrès. Alors, je ne sais pas ce que dit Sorel en particulier, parce que je pense que c'est une ressuscité de Barrès, et que donc on trouve les mêmes choses, c'est-à-dire la mythologie de la terre et du sang, hein, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Certains disent français de souche, etc. Hein. Tout à l'heure, vous avez entendu que j'ai dit la population majoritaire. C'est une petite lâcheté pour éviter certains mots, parce qu'aussitôt que vous dites certains mots, clac, il y en a qui vous cataloguent, c'est agaçant, mais c'est comme ça. Bon. Et donc, l'affaire du grand remplacement, je pense que ça n'a pas de raison d'être, parce qu'effectivement, la France est un pays d'immigration depuis très longtemps, que toutes les vagues se sont intégrées dans la difficulté au départ, c'est vrai que ça ne marche pas la première génération, ça ne marche pas toujours à la seconde, mais à la troisième, généralement, c'est fait. Et que ces gens-là, quelle que soit leur origine, quel que soit leur aspect, quelle que soit leur culture originelle, font partie, ben, écoutez, on peut l'appeler le peuple, on peut l'appeler la nation, on peut l'appeler autrement si ça vous fait plaisir, mais ils font partie de cet ensemble où bien vouloir vivre ensemble, qui s'exprime. Mais attention, ça veut dire qu'on est d'accord sur tout, et heureusement, parce que si on était d'accord sur tout, on s'inquiéterait beaucoup quand même. Mais on a des choses en commun. Qu'on a, en tout cas dans cette salle, des valeurs en commun. Qu'on a un mode de vie dans lequel nous nous reconnaissons. Mais qu'en même temps, nous avons des appartenances multiples. On n'est pas tous dans un monde, on n'est pas figé. Et que donc, le grand remplacement, ça ne veut strictement rien dire, c'est vide de sens. Mais il y a très longtemps qu'il y a un grand remplacement, mais ce n'est pas un remplacement, c'est une évolution, c'est l'évolution de l'histoire, c'est l'évolution humaine, c'est tout à fait normal. Merci.